Regarde-moi ça. J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh, ça c'est de la vue. Oh, c'est magique cet endroit.
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène sur un continent où on ne va pas assez souvent, vraiment pas assez souvent. Et moi, je l'ai très peu visité malheureusement. Et je t'emmène en Namibie. Genre, c'est un pays où on entend surtout beaucoup de road trip. Mais du coup, là, je vais t'emmener d'une autre façon. On va aller surtout à cheval avec Philippine qui a vécu une aventure extraordinaire là-bas. Comment ça va, Philippine?
Ça va très bien. Salut Alex, merci de me recevoir. Je suis super contente d'être ici.
Je suis ravi que tu viennes sur ce podcast parce qu'il y a plein de thématiques en fait que tu rassembles à toi toute seule que j'adore. Déjà le voyage féminin en solo, le voyage en Afrique, le voyage d'une façon un peu plus alternative que du gros road trip en 4x4. J'aimerais qu'on revienne justement, j'aime bien partir avant le départ, c'est qu'est-ce qui t'a fait choisir cette aventure? Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce pays? Comment tu l'as trouvé? Pourquoi tu as fait la Namibie à cheval? Comment... Déjà, c'est bizarre. Quand on te dit ça, je fais la Namibie à cheval. Là, les gens disent, t'as un Namibie Afrique avec des gros animaux, il doit y avoir des lions, des bordels. Pourquoi tu te ramènes à cheval? Tu vois, remets dans le contexte un peu.
Ouais, t'as raison, il faut remettre dans le contexte. Et c'est vrai que c'est bizarre et que moi non plus, je ne m'attendais pas du tout à aller là-bas. En fait, chacune de mes aventures arrive un peu par hasard à chaque fois. Je saisis un peu les opportunités quand elles arrivent. Et moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était vraiment me plonger une grande période à cheval parce que moi, je suis cavalière, j'ai toujours été cavalière et je pense que je le serai toujours. Et... j'avais vraiment envie de me plonger dans une aventure à cheval. Et en fait, au départ, je me suis dit, bon, bah, le berceau de l'équitation, c'est quoi? C'est le western, c'est l'ouest américain. Alors du coup, j'ai essayé de trouver un ranch dans l'ouest américain. J'ai pris des contacts, j'ai cherché, j'ai fouillé. Et en fait, à travers ces recherches, il y a une Hollandaise qui m'a contactée et qui m'a dit, bah, écoute, bonjour Philippine, moi j'habite en Namibie, j'ai construit un ranch là-bas et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à guider des safaris entre les gnous, les antilopes et les girafes. Est-ce que ça te dit?
Sacré pitch, sacré voilà. Pitch. Genre, c'est pas genre, écoute, j'ai un petit centre équestre près de Saint-Quentin-en-Yvelines, est-ce qu'il y a moyen que tu viennes non, avec pour les ados? Non, mais en plus, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir avant de tomber sur ce pitch. Tu dis,
ouais.
Ces recherches m'ont emmené à en plus recevoir un message de quelqu'un d'extérieur. Quand tu dis ces recherches, c'est sur quel site pour bien que les gens qui ont envie de faire des recherches soient au bon endroit pour aussi peut-être eux recevoir un pitch aussi sexy que celui-là.
Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai beaucoup cherché à travers les plateformes de woofing, donc ouais. Les plateformes de woofing des différents pays. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup aidé pour ce voyage-là et pour d'autres aussi d'ailleurs, c'est les groupes Facebook en fait.
Ah.
Moi, je veux. Ouais, je vais jamais sur Facebook, j'utilise jamais Facebook. La seule raison pour laquelle je l'utilise, c'est ça. C'est parce que les groupes de voyageurs, backpackers ou les mises en contact de personnes qui cherchent du monde un peu pour du woofing, ça marche super bien par Facebook. Et du coup, alors j'ai trouvé un groupe dont l'intitulé était « Aventurière, cavalière à cheval ». En anglais, je me suis dit, ok, le truc, c'est déjà une ultra niche, il va y avoir personne dessus,
oh,
mais bon, on essaye quand même. Et en fait, c'est à travers ce site-là que j'ai trouvé du monde et que j'ai été contactée par pas mal de monde. Donc finalement, il faut tout tenter, hein. Même les choses les plus improbables, il faut les essayer.
Mais tu sais que c'est... alors moi, je m'attendais avec ma question où tu vas me dire 100% le truc bateau, genre bah, j'étais sur Elpix ou Workaway, tu sais, c'est là où tu as beaucoup de missions bénévoles,
ouais.
Et sur plein de thématiques différentes. Mais alors, je ne m'attendais pas du tout au Facebook Group qui, je sais qu'aujourd'hui, Facebook shift beaucoup justement sur et mise beaucoup sur leur côté communauté, mais communauté dans le sens groupe et pas genre une fanpage. Et tu vois, là, je suis en train de chercher un endroit pour vivre à Bali et louer sur plusieurs mois. On m'a dit arrête Airbnb ou des trucs comme ça, ou les machins, c'est sur Facebook que ça se passe. Et c'est pareil, c'est tu nommes le nom de la ville, machin, truc. Et en fait, c'est ouf de dire qu'il y a des groupes sur Facebook qui sont ultra, comme tu dis, keywordés en fait. Filles, solo, cavalière, limite Afrique, quoi, tu pourrais dire. Et en fait, le plus simple, de façon très pragmatique, c'est que tu vas sur Facebook, tu tapes dans la barre de recherche, tu mets tes mots-clés et yalla, c'est parti.
Exactement, ouais, c'est ça. Tu essayes de trouver... bah, ce qui correspond le mieux à ce que tu recherches en termes de mots-clés, comme tu dis, de ville, de pays, de sport, si tu veux faire un sport, de spécialité, de passion. Et en fait, tu trouveras des groupes assez improbables, mais qui existent et avec des personnes, pour le coup, super engagées.
Clairement. Et est-ce que cette recherche-là, entre guillemets, elle est du coup super rapide? Ça t'a pris combien de temps entre le moment où tu dis c'est américain, cow-boy, et le moment où finalement tu fais tes recherches et tu files en aiguille, tu actionnes la machine et tu as ce fameux message, c'est à peu près combien de temps?
Je pense que ça m'a pris 3 mois, mais 3 mois où j'ai pris le temps, tu vois, où okay. j'ai un peu considéré les différentes demandes, parce que du coup, il y a vraiment des ranchs dans l'Ouest américain qui m'ont contacté, des endroits super, avec des personnes avec qui j'avais des bons contacts. Et en fait, quand j'ai reçu ce message de la Hollandaise, là, déjà, la première chose que j'ai fait, c'est que je n'ai pas répondu parce que je me suis dit, OK, alors elle est tarée.
Pourquoi tu dis ça?
Mais parce que moi, je ne savais même pas que ça existait, en fait, de guider des safaris à cheval en Afrique. Je me suis dit, non, mais elle est complètement folle. C'est forcément, une arnaque, tu vois. Je me suis dit, non, mais là, je vais me faire choper en Afrique par je ne sais pas qui. Ça me paraissait bizarre, tu vois.
On a besoin de poumons et de reins. Viens faire un petit safari, on va te prélever des trucs. Ouais, je vois. C'est vrai que ce n'est pas du tout un type de safari qui est très connu ni répandu. On voit tout, quand on pense safari, on pense 4x4 ouvert, tu sais, avec des espèces de toits ouverts où tu peux t'surélever. Comme ça, tu te fais un peu moins potentiellement bouffer par les lions, etc. Et que tu as une vue sur la savane. On n'imagine pas. D'ailleurs, coucou avec ton petit canasson. Yee, allez, et vas-y, cannabis, hop là, vas-y, c'est parti. Et qu'est-ce que t'as fait que t'as considéré ça demande où t'as envie de vouloir si c'était pas une arnaque?
Alors après, quand même, je me suis dit, bon, quand même, si c'est vrai, si ça existe, ça peut être une expérience folle et puis ça fait rêver. Donc, je me suis dit, bon, alors j'ai tapé son nom sur Internet et en fait, il s'avérait que c'était une cavalière d'endurance très connue. Donc, je me suis dit, ah bon, bah ok, finalement, ça sort pas de nulle part. Ok, ça tient debout. Après, en fouillant sur Internet, j'ai trouvé un peu des photos, etc. Et puis après, on s'est appelé beaucoup, plusieurs fois. Et ça, c'est hyper important. En fait, il faut vraiment être en contact avec les personnes chez qui tu vas débarquer, parce que finalement, moi, j'étais, comme tu dis, une fille toute seule en Afrique. Beaucoup de paramètres qui font peur, qui ne sont pas forcément rassurants. Ouais. Et le fait qu'on ait été en contact beaucoup par téléphone, par visio, qu'elle m'envoie des photos, qu'elle me montre un peu sa vie, qu'on discute vraiment toutes les deux, ça m'a rassurée. Et c'est ce qui a fait que je me suis dit, bon, bah allez, go, j'y vais. Et puis, si jamais vraiment ça se passe mal, bon, bah c'est pas grave, je reprends en avion, je repars en France, j'en sais rien, ou je vais ailleurs en Namibie. Mais je me suis dit, bon, allez, c'est parti, là, il faut tenter l'expérience, il faut y aller. Et donc, j'ai pris l'avion, j'ai débarqué en Namibie.
En vrai, cowboy, c'est cool. Tu vois, t'es dans les westerns. Bon, il n'y a plus trop de bisons. Mais là, t'enlèves les bisons, tu mets des gnous et des éléphants. Ça a de la gueule, j'avoue, ça donne vraiment envie. Et quand tu t'es lancé dans cette aventure-là, c'était quoi? C'était pour les vacances? C'était pour un espèce de break dans ta vie? Ça correspondait à quel moment? Pourquoi t'avais... Enfin, tu vois, c'était quoi le but aussi de cette aventure-là?
Alors moi je me considère comme une aventurière parce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer et j'ai besoin en fait de me faire des séjours comme ça complètement déconnectés. J'en ai vraiment besoin, pas forcément pour faire des breaks ou quoi que ce soit, mais parce que c'est vraiment ce que j'aime et c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie en fait. Et surtout parce que ça m'inspire, parce que je rencontre du monde. Et moi, en fait, le voyage, je le considère vraiment de cette façon-là. C'est-à-dire que ça m'est jamais arrivé de voyager, tu sais, en me disant, bah tiens, je vais faire cette ville ou je vais faire ce pays, en me disant, OK, bon, bah, je vais regarder la liste du top 10 des trucs à faire. Yes. Ça, c'est un truc qui m'arrive pas ça trop, que pas. Je fais pas trop. Ouais. En fait, à chaque fois que j'ai voyagé, c'était pour une mission précise, entre guillemets, pour vraiment vivre dans le pays, en fait.
Yes. Et du coup, tu as booké... mais du coup, tu es parti combien de temps? Parce que tu m'as pas dit que tu étais parti combien de temps? C'était pour vivre, mais tu es parti comme un kiff, mais déconnecté.
Je suis parti 2 mois.
Ah, OK. C'est pas 2 semaines. C'est pas 2 petites semaines de vacances. C'est un vrai beau kiff de 2 mois, etc. Et là tu avais fait un break. Donc, ça veut dire que tu travaillais un peu à distance en télétravail ou vraiment c'était 2 mois off?
Non, pas du tout. C'était 2 mois off. C'était avant de commencer mon boulot que j'ai encore aujourd'hui, qui est un boulot qui me plaît énormément. Mais Mais c'était, ouais, voilà, c'était vraiment avant cette période-là. Je les avais prévenus, je leur avais dit, bon, bah, moi, par contre, j'ai envie d'avoir du temps pour faire quelque chose que j'ai envie de réaliser. Et du coup, j'avais pris cette période-là avant de commencer mon boulot.
Putain, génial. Du coup, maintenant, j'aimerais qu'on arrive, on monte dans l'avion, on atterrit à Windhoek. Non, putain, je ne sais plus la
Windhoek,
capitale.
Windhoek, c'est ça, ouais.
Oh, putain, je l'ai. Oh, la vache.
Hey,
OK, hey, on a bossé ses capitales à un moment donné dans sa vie. Windhoek. Maintenant, on met un casque de réalité virtuelle. On est dans le métaverse avec toi. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les... Rajoute-nous les petites sensations. Fais-nous vibrer nos sens un peu, là.
Ouais, alors déjà, tu arrives en avion à Windhoek et là, tu regardes par le hublot et tu te dis « Ok, ça a changé, Saint-Exupéry. » C'est vraiment la savane en dessous avec rien, des tout petits buissons, le désert complet. Et là, tu as atterri au milieu du désert. Et moi, ce qui était assez marrant, c'est que donc, j'atterris en avion et Ingeborg, honnêtement, je ne la connaissais pas. Tu vois, je l'avais eu que par téléphone et j'avais vu des photos. Et là, je sors de l'avion. Donc, on se cherche un peu, je cherche un peu. Et là, je vois une femme qui se lève, qui vient dans ma direction. Et elle avait un chien avec elle. La première chose qu'elle me dit, c'est bon, bah, bonjour, bienvenue Philippines, écoute, il faut qu'on se barre vite fait de l'aéroport là parce que j'ai le chien avec moi et les gardes ils aiment pas du tout ça. Bon, ils me connaissent du coup, ils m'emmerdent pas trop, mais quand même, il faut pas qu'on traîne.
Ok, vas-y, dépêche-toi, on sera à la bise plus tard quoi.
Voilà, la nana, tu sentais vraiment qu'elle était chez elle et qu'il fallait pas l'emmerder quoi. Et du coup, on prend la route et là, c'est vraiment la route au milieu de nulle part, au milieu du désert. On s'arrête, enfin, on ralentit à plusieurs endroits sur des portions de route parce qu'il y a des babouins qui traversent. Ça commence un peu à être la vraie vie sauvage et la vraie vie d'Afrique. Et quand on arrive... Donc, on roule un peu plus d'une heure parce que le ranch était situé à un peu plus d'une heure de route de Windhoek, qui est en fait la première ville et la première civilisation même proche du ranch. Donc, nous, on était vraiment isolés au milieu de nulle part, tu vois. On savait que si jamais on avait besoin de quelque chose ou si on avait un problème, bah, c'était une heure de route minimum avant de trouver quelqu'un et de trouver...
Pète pas la jambe, évite de trop tomber à cheval, c'est chiant, quoi. Voilà.
Exactement. Et du coup, on roule, on arrive au bord d'une route où là, il y a un grand portail avec des grandes barrières, des grandes barricades. Il y a un garde qui reconnaît Ingeborg et qui nous ouvre. Et là, on continue encore une petite portion de route, mais vraiment sur des routes. C'est plus de la route en fait, c'est un chemin, c'est un grand chemin de sable. Ouais, c'est la piste sur laquelle il y a que quelques traces de 4x4, mais qui sont effacées au fur et à mesure avec le vent qui ramène du sable dessus.
Ouais.
Et là, on se rapproche de plus en plus du ranch et il y a des troupeaux de springbok, c'est des toutes petites antilopes qui traversent devant nous, tu vois, 40 ou 50 springbok, c'est des toutes petites antilopes qui trottinent.
C'est celles qui bondissent là de dingue là, c'est qui font des bonds de fou. Oh, j'adore.
Ouais,
j'adore. Je suis beaucoup trop fan de ces animaux.
Et elle passe autour de nous et là, je commence vraiment à être dans le vif du sujet et à me dire waouh, ok, ça commence, les animaux sont si proches de nous, en fait, c'est... Ouais, ça te met direct dans le bain.
Et quand tu arrives, parce que tu vas découvrir ta maison pendant 2 mois, donc, et qu'en plus, tu as vu que la Ingeborg est brute de décoffrage, tu vois que voilà, la route, c'est de la piste et que les animaux sont à côté de toi. Eh, ça ressemble à quoi ta chambre, en vrai? C'était cool, c'était route, c'était 4 planches avec des trucs qui passent dessous. Ça ressemble à quoi?
Non, alors là, justement, j'étais assez surprise parce qu'on arrive sur le ranch et les écuries sont magnifiques. Tout est construit avec des gros rondins de bois. C'est très brut, en fait. C'est avec des matériaux très bruts, en pierre et en bois.
Mais très noble.
Voilà, très noble, très, très beau, mais toujours avec un aspect très, pas artisanal, mais tu sens que tu es dans le désert, tu vois, vraiment, tout est construit et ça rentre parfaitement dans le paysage, en fait. Et moi, j'arrive donc au ranch et on a 2 logements, donc il y a le logement principal de Ingeborg et moi, il y a mon logement à côté qui est mitoyen et c'est vraiment 2 petites maisons, assez sobre, tu vois, mais des maisons classiques.
Et finalement, ça reste propre avec le confort qu'on peut avoir. Ouais, ok.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Et justement, ce que tu disais, safari, j'imagine que du coup, c'est ce dont elle vit, c'est comme ça qu'elle fait tourner son ranch. Il y a des hébergements aussi sur place pour les gens qui viennent faire des safaris ou c'est un truc qui est à côté, enfin, tu viens juste faire ton safari de la journée ou je sais pas, ou plusieurs jours, comment ça fonctionne?
Alors, il y a des clients qu'on accueillait chez nous sur les logements qu'on avait sur le ranch. Et sinon, pas très loin de nous, dans le désert, il y avait aussi un lodge qui accueillait des personnes pour les safaris, donc qui proposaient eux aussi des safaris, mais en jeep, comme tu dis, les safaris classiques, ouais. Et ouais. Qui logeaient nos clients qui partaient avec nous à cheval.
Ok. Et du coup, tu as posé tes affaires dans la maison qui est totalement correcte. J'imagine que la vue par la fenêtre doit être à peu près indécente. Là, elle est en train de te pitcher, à mon avis, de te dire OK, il va voir ce qui va se passer, ça passe comme ça, comme ça, comme ça. Elle te prépare au premier safari. Comment ça se passe, ta première sortie à cheval? Est-ce que c'est avec des gens? Est-ce que c'est solo avec elle? Ambiance entre girls, je te montre un peu comment ça se passe. C'était quoi les sensations? C'était quoi les circonstances?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le ranch, on n'accueille que des cavaliers expérimentés parce que c'est déjà compliqué. C'est que déjà compliqué, il faut un savoir-faire pour être à cheval. Et alors, si en plus, tu emmènes des personnes dans le désert avec les animaux sauvages qui sont vraiment quelquefois à 20 mètres ou 10 mètres de nous, bah, tu ne peux pas pouvoir gérer en même temps les éléments extérieurs, les animaux sauvages, la savane, la chaleur et des personnes qui ne savent pas monter à cheval. En fait, si la personne panique et n'est pas bien à cheval, alors là, le cheval panique aussi. Et puis là, tu te retrouve vraiment dans une situation dangereuse pour le coup. Donc, c'est pour ça qu'on teste, entre guillemets, les personnes qui arrivent. Déjà, on leur demande leur niveau avant qu'elles viennent, quand elles réservent leur expérience. Mais on les teste aussi quand elles arrivent à cheval. On les fait monter en carrière, dans des enclos, tu vois, des endroits encadrés pour voir vraiment leur niveau à cheval et vérifier qu'elles ne nous aient pas menti. Et du coup, moi...
Attends, mais moi, attention, on m'appelle Lucky, t'inquiète pas. Et en fait, tu vois que là, je vois trop. Et Lana fait, oui, celui-là, il me fait un peu peur. Par contre, il est un petit peu brut. Et du coup, petit fun fact, peut-être qu'il y en aura un ou pas. Est-ce que ça a arrivé qu'il y a des gens qui étaient en décalage avec leur niveau où tu t'es dit, là, c'est limite ou pas? Ou est-ce qu'en fait, à chaque fois que les gens qui viennent, ils sont quand même, ils viennent pas pour rien, quoi. Ils traversent pas la planète pour rien.
Moi, ça m'est jamais arrivé, mais Ingeborg m'a dit que ça lui était arrivé. En fait, Ingeborg, elle dit quelque chose qui est très cavalier, enfin que je reconnais beaucoup dans l'identité d'un cavalier, c'est qu'elle me dit, moi, de toute façon, un cavalier, je le reconnais à sa façon de marcher et à sa façon de se comporter dans les écuries. À partir du moment où tu rentres dans une écurie et le comportement que tu as avec un cheval, on voit tout de suite si tu es habitué ou pas et si tu es un cavalier ou pas.
C'est vrai que si tu as peur du cheval, que tu es maladroit, où les gestes ne sont pas fluides, c'est que tu n'as pas mis assez souvent les pieds ou en tout cas, tu n'es pas à l'aise, effectivement. Du coup, la première sortie, c'était, j'imagine, avec elle, toutes les deux, ou vous étiez carrément partie direct avec des gens dans le dur?
Voilà, c'est ça. Alors, j'ai un autre petit fun fact, du coup. C'est que moi, ma première sortie, c'était le lendemain matin. Donc, en fait, le moment où j'ai posé mes valises, moi, j'étais surexcitée. Je voulais monter à cheval tout de suite. Et elle me dit, non.
Calme-toi.
Ouais, voilà, calme-toi.
Calme-toi. T'es beaucoup... déjà, je vais nourrir mon chien, on verra.
Exactement, elle me dit, écoute, repose-toi, t'en as besoin. Moi, je disais, non, mais j'ai pas besoin de me reposer, j'ai pris l'avion, là, je suis tout feu, tout flamme, je veux monter. Elle me dit, écoute, repose-toi, on va monter à cheval demain. Et tout de suite, quand j'arrive, elle me fait signer une décharge qui stipule que nous évoluons...
Si tu te brises la moelle épinière, ce n'est pas ma faute.
C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça qui dit que nous évoluons dans un environnement avec des animaux sauvages, que je suis responsable de moi-même et que aucun accident ne peut être pris sous sa responsabilité, qu'il faut que je fasse attention parce que les animaux sont dangereux, les chevaux sont des animaux qui peuvent aussi avoir des comportements dangereux. Enfin bref, voilà, petite déclaration où tu te dis, ah ouais, ok, c'est bon, on est dedans.
Si tu veux faire un face-to-face avec un éléphant, c'est ton problème, tu vois, mais lui demande pas après des dommages et intérêts, effectivement. Parce que, d'ailleurs, en parlant de trucs un peu dangereux, en vrai, là où vous étiez, j'imagine qu'il n'y avait pas de félins, où il n'y avait pas de prédateurs, c'est surtout des autres, tu vois, soit des bovidés, donc soit des gnous, soit des antilopes, ou peut-être aussi des gros mammifères comme les éléphants ou girafes, mais il n'y avait pas de... Genre, il n'y a pas un machin qui pouvait te sauter dessus, en vrai. On est d'accord.
Alors, en vrai, si. Si.
OK.
Ouais, On était dans une zone où il y avait beaucoup d'herbivores, c'est vrai, mais il y avait aussi des guépards, tu vois. Après, les petits félins, okay, comme guépard. Ça, entre guillemets, okay. Hein, entre guillemets, okay, cool, ils ne t'attaquent pas si tu es en groupe avec plusieurs chevaux, parce que les chevaux vont se défendre, en fait. Alors, à partir du moment où tu fais un safari avec ce qu'on appelle les Big Five, tu sais, c'est les gros animaux d'Afrique, les animaux emblèmes de l'Afrique.
Si on les rappelle, c'est... Attends, deux têtes. Non, on va voir. J'ai pourtant jamais fait de safari, mais c'est éléphant, rhinocéros, lion, léopard. Merde, j'ai pas le...
Buffle.
Et guépard. Ah, buffle. Buffle.
Okay, ouais.
Buffle. Ok, buffle.
C'est ça. Et donc, si tu fais un safari sur des zones où se trouvent les Big Five, tu es obligé d'être armé, quoi qu'il arrive. Et nous, on n'était pas sur une zone où il y avait les Big Five. Il n'y avait pas de lion, par exemple, sur notre zone. Du coup, on n'était pas obligé d'être armé.
Ok. Pas obligé de... Ah, tu veux dire, s'il y a les cinq en même temps, il faut une arme. S'il en manque un, ça va, c'est ça?
Ça va.
Ok, ok. Attends, non, t'inquiète, il n'y a pas de lion. Bon, par contre, il y a des buffles et des rhinos. Ils sont un peu vénères en ce moment, mais t'inquiète. Donc, ok, là, vous étiez... au contraire, vous étiez sur du... Soyons... faisons attention, soyons pros, soyons à l'affût. Il n'y a pas de moyen de... au-delà même de défense et de faire peur aux animaux, si ce n'est... tape dans tes mains, va-t'en, hein, tu t'en vas, guépard, hein. Donc valait mieux faire très... Ok, il y avait des trucs qui pouvaient être un petit peu, fallait faire gaffe. C'était quoi l'animal que finalement Ingeborg redoutait le plus? Parce qu'en fait, des fois, c'est, je sais que les buffles sont un animal plus redouté que les lions quasiment, parce qu'ils sont un peu vénères en fait.
Ouais, t'as raison de le dire, parce que c'est vrai que c'est assez inattendu, mais l'animal le plus redouté par Ingeborg, c'était les rhinocéros. Parce qu'en fait, ouais, je t'explique pourquoi. Les rhinocéros, ils chargent super vite. En fait, les rhinocéros, c'est des animaux, on va dire, assez passifs si tu les approches de loin. Mais par contre, si tu rentres un petit peu trop dans leur zone et qu'ils sentent que tu commences à abuser et à les emmerder un peu, alors là, ils te chargent, mais super facilement. Et en fait, un rhinocéros, ça a la même vitesse de pointe qu'un cheval. Du coup...
What?
Ouais.
Non.
Le gros machin avec les petites pattes, là?
Exactement. Mais par contre, un rhinocéros, ça n'a que 800 mètres d'endurance. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que...
Attends. Juste, tu vas me finir l'histoire après. 800 mètres, c'est archi long.
C'est énorme.
800 mètres, c'est super long. 800 mètres, c'est pas genre, ah, tu fais un petit sprint, tu l'as semé, genre vite fait. 800 mètres, c'est presque un kilomètre, de quoi on parle? Ça te charge sur un kill. Waouh, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis. Fini, excuse-moi, je t'ai coupé, mais waouh.
Ce qui se passe, c'est que si tu te fais charger par un rhinocéros avec ton cheval, donc comme je disais, le rhinocéros, il va avoir la même vitesse de pointe que ton cheval pendant 800 mètres. Donc en fait, pendant 800 mètres, il faut vraiment que tu galopes, tu partes à fond. Et après les 800 mètres, tu vas commencer à le semer. Mais par contre, pendant ces 800 mètres-là, tu ne t'arrêtes pas, tu ne te retournes pas, tu laisses ton cheval fuir. Et surtout, tu ne tombes pas de ton cheval.
Bah oui, effectivement, le petit piétinement et un coup de corne qui te transperce, c'est chiant. Est-ce que... On te dit pas plutôt de faire un peu comme les antilopes quand elles sont coursées par un guépard, tu sais, tu vas à fond et tac, tout à coup, tu fais un petit virage à gauche, tu sais, une petite esquive en mangeant ce toréador. Non, pas du tout. Là, c'est ligne droite. Alors, là. C'est survie.
Ouais, c'est ligne droite, c'est survie, pas de finesse, vraiment. Ouais.
Pas de finesse. En plus, tu sais que j'ai capté la puissance d'un rhinocéros, parce que c'est vrai que tu dis c'est quand même assez compact, le machin. Je l'ai vu une fois, je pense que c'était au parc Kruger, parce que c'était une petite voiture, genre, tu sais, une espèce de Mégane, un truc comme ça. Enfin. Et c'est un des seuls parcs au monde, le parc Kruger en Afrique du Sud, où tu peux aller avec ton propre véhicule. Le truc s'est retourné en un instant. Il a retourné la bagnole. Mais tu sais, comme une feuille. Et j'ai fait, d'accord, ok, c'est un petit peu de force, parce que quand même, une Mégane, ça va faire une ou deux tonnes, tu vois. Enfin, et le truc l'a retourné comme une feuille. Donc, ok, on fait gaffe au rhinocéros qui a l'air passif. En fait, le rhino, en vrai, quand tu es là à cheval, etc., c'est un peu le voisin ivrogne qui a un fusil dans son placard, en fait. C'est vraiment bon. Si tu l'emmerdes pas, que tu fais pas de bruit le soir et tout, ça va. Mais il suffit qu'il clique et là, tu es dans la merde. Ok, je capte. Du coup, quand tu as su ça, comment s'est passée la première sortie?
Je t'avoue que j'ai un peu flippé. Je me suis dit, waouh, mais dans quoi on s'embarque là? Et en fait, En fait, ce qui était assez rassurant, c'est que les animaux, tu les vois de loin, parce que comme c'est un désert, c'est une vue assez dégagée. Et surtout, ouais. Ingeborg, elle connaissait les zones par cœur et elle savait reconnaître toutes les traces des animaux. Donc, les rhinocéros, même si on ne voyait pas leurs traces de pas dans le sable, elle arrivait à voir qu'il y avait un buisson qui était un peu écrasé ou alors qu'il y avait des troncs qui avaient été déplacés parce qu'ils s'étaient grattés contre. Et du coup, elle savait exactement à quel moment ils étaient passés, dans quelle direction ils étaient allés.
Ah ouais, c'est quand même... ok, elle est devenue pas que cavalière, mais guide, tu sais. Ça sent là, il y a une bouse fraîche. Je ne sais pas où elle est, mais je peux la renifler. Ok, c'est passé il y a 2 heures, à mon avis. Elle doit avoir 2 heures, cette petite bouse. Tournons à droite, Jack. Allez, viens. On va faire un feu.
Mais tu sais que c'était exactement ça, parce qu'il y a eu un safari aussi où on s'est retrouvés à un moment dans les montagnes. Il y avait des montagnes au-dessus de notre ranch et les montagnes, c'était un peu l'endroit redouté parce que tu t'éloignes encore plus du ranch, tu es encore plus dans un terrain escarpé. Et on était avec des clients à ce moment-là. Et moi, je lui dis...
Ouais, tu redoutes quoi là ? Parce que là, les rhinos, ils sont pas en montagne, les machins. Me dis pas que c'est pas des chèvres non plus.
Non, les rhinos montent pas en montagne, mais tu as d'autres animaux, justement. Tu as d'autres animaux. Et en fait, il y a un moment où on est arrivé à un endroit et Ingeborg s'est rapprochée de moi en s'éloignant un peu des clients et elle m'a dit ok. Oh. Ouais, ça sent pas bon.
Non. Ouais, non. Allez, bon. Fais genre, je te dis rien, poker face, je vais te balancer un dos. Attends, calme-toi, ne panique pas. Oh non.
Elle me dit, alors là, tu vois, je sais pas si tu sens, mais ça sent l'urine de hyène. Et les hyènes, en fait, on les voit pas, mais elles te voient. Tu vois, elles se mettent souvent en hauteur au-dessus de toi, elles se regroupent en bandes.
Comme dans le Roi
Lion. Ouais, c'est ça, c'est très fourbe, très vicieux les hyènes. Et du coup, elle me dit, ok, alors là, on va pas tarder du tout, on va vite filer, parce que si ça sent l'urine de hyène, ça veut dire que peut-être que nous on les voit pas, mais elles en tout cas elles sont déjà en train de nous observer.
Oh là, d'accord. Donc là, il n'y a pas question de faire un petit feu de camp, de faire une petite pause thé, on fait chauffer un thé autour tranquillou le soir. On est d'accord. C'est la nuit tombée, on se carapate. Et est-ce que justement il y a une deadline, tu sais, la clepsydre, vite, vite, la clepsydre, sort. Parce que tu sais qu'après, c'est fini pour toi, en vrai. Est-ce qu'il y a une heure comme ça, un peu critique, où je sais que souvent les prédateurs se manifestent plus
Mais à quel moment c'est considéré la nuit en Afrique ?
Alors nous, de toute façon, c'est sûr qu'on ne s'amuserait pas à être à l'extérieur la nuit, mais en fait, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que la chaleur en Namibie, c'est quelque chose qui peut devenir dangereux, en fait. Donc, nous, on sortait très tôt le matin. On commençait les sorties avant le lever du jour, vraiment aux premières lueurs du soleil. Et en fait, on essayait de rentrer. Bon, ça fait 6-7 heures du matin.
Ah, ok. Je pensais que tu allais me dire, à 4h30, on était sur le cheval. J'ai fait, oh, ok. ça va, ok. 6h30, 7h, c'était parti. Et du coup, jusqu'à, excuse-moi, je t'ai coupé.
Et après, on revient vers midi ou 13h. Mais bon, c'est quand même le point où ça commence à taper très fort. Mais au moins, tu dois supporter la chaleur qu'une heure au lieu de quatre, tu vois.
Ok, ouais, je vois. Tu rentres quand même à midi, c'est que tu rentres juste avant le barbecue. Et c'est quoi les températures à la saison des safaris ?
Alors, nous, quand on y était, on avait aux alentours de 45 degrés.
Celsius, on est d'accord.
Oui, bien sûr. et attends, autre petite anecdote. Moi, le premier jour où je suis arrivée, donc pas celui où j'ai posé mes valises, mais le lendemain, quand justement j'ai fait mes preuves devant Ingeborg, je lui ai montré que je savais monter à cheval, etc. Donc, on a commencé très tôt le matin. On a commencé pareil à 6h30, 7h. Et après, il fallait aussi que je lui montre si je savais bien longer un cheval. Tu sais, cet exercice où tu fais tourner un cheval autour de toi pour lui faire faire de l'exercice. Et en fait, à ce moment-là, il commençait à être 9h, on avait déjà 43 degrés. Et comme c'était la première fois que je me retrouvais sous ces chaleurs-là, au bout d'un moment, j'ai dit à Ingeborg, écoute, j'avais pas pris d'eau en fait. Donc je lui ai dit, bah là, je vais aller chercher de l'eau parce que je sens que je commence à me sentir pas top. Et du coup, je suis partie du rond de longe, je suis allée en direction du ranch qui était pas très loin, tu vois, 100 mètres plus loin. Et en fait, j'ai fait un malaise direct. Vraiment, je suis tombée dans le sable, elle m'a pas vue, je sais pas combien de temps je suis restée inconsciente dans le sable.
Arrête!
Ouais.
Oh non. Et attends, parce que attends, Namibie quand même, sur le sol, tu n'en as pas parlé de ça. Il y a du snake un peu, il y a du truc un peu qui te bute, ça, non?
Ouais, il y a des serpents.
Ah ok, j'ai
vraiment vénère. Bah d'ailleurs, matin, nous, chez nous, en fait, sur toutes les encadrures de portes et de fenêtres, on avait des lames de rasoir pour pas que les serpents rentrent à l'intérieur chez nous.
À quel moment, comment tu mets, alors, ok, ça veut dire que là, c'est sérieux. Quand tu te fais chier à mettre sur chaque encablure des lames de rasoir, c'est que c'est la guerre, en fait. C'est que là, tu
c'est
veux pas que ça rentre.
C'est vraiment ça, ouais.
Waouh. Donc, on est bien d'accord que c'est genre du Black Mamba, des trucs qui te mordent, c'est fini pour toi, en fait. Yeah, ok,
ouais,
on en
est là. 10 minutes d'accord. d'espérance de vie.
Super, ok, donc sympa. Toi ta sieste avec ton malaise, c'est cool, tu vois, tu t'es relevé, il s'est rien passé, on va boire de l'eau, on va voir sa petite gourde et son chapeau après, hein. Ça, c'était un peu ça.
Exactement.
Wow, le coup de pression, en plus si je te vois trop, tu sais comme dans les films dans un Far West, c'est genre, tu sais, elle a marché pendant des heures dans le désert et tout, et là tu tombes sur tes genoux, bam, bam, et là tu t'écrases quoi, avec le décalage horaire, la chaleur, le... T'as dû te sentir parti. Attends, qu'est-ce que ça fait après de, tu sais, de, tu reviens à toi, tu, est-ce que ça pas tout de suite, c'est bête hein, mais tu sais, t'es là pour 2 mois, t'as pas un peu brisé aussi ta confiance en toi, ou tu dis poula, j'ai l'impression que dans quoi je suis tombé, ou est-ce que ça a été, voilà, tu t'es relevé, c'était pas grave, c'est juste un petit truc cool.
Ben, j'ai fait le malaise, donc je l'ai senti venir, tu vois, voile blanc, les jambes qui tremblent, etc. Je tombe, et après à un moment, en fait, c'est assez bizarre, mon cerveau m'a fait comme un déclic. Parce que Ingeborg, elle ne m'avait pas vue et mon cerveau m'a fait comme un déclic qui m'a dit « Là, il faut vraiment que tu te relèves. » Donc, je me suis relevée, je ne voyais toujours rien, mais j'ai crié pour qu'Ingeborg m'entende. Et en fait, là, elle m'a récupérée parce que je suis retombée dans les pommes et elle m'a rattrapée. et à ce moment-là, elle m'a dit « Ok, écoute, c'est normal. En fait, en Namibie, quand tu n'as pas l'habitude de vivre ici, il faut que tu prennes des électrolytes. C'est des compléments qui fixent les minéraux dans ton corps, en fait, parce que tu bois tellement d'eau la journée, il faut boire 3 litres d'eau minimum par jour et tu transpires tellement qu'en fait, tu évacues tous tes minéraux et c'est ça qui te vide un peu de ton énergie. Donc, il faut que tu prennes des compléments pour fixer ces minéraux dans ton corps. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle m'a rassurée, où elle m'a expliqué qu'il y avait des solutions pour pallier à ça, j'ai été rassurée. Je n'ai pas été complètement brisée. Je me suis dit, ok, bon, ça va être chaud, mais on va y arriver.
Là, moi, je fais un parallèle. Excuse-moi. Petite sortie safari. Avec les newbies qui viennent de débarquer. Coucou, allez, on y va. Salut, allez, c'est parti. Et là, on est là, la personne, elle est bien. Et là, bah, elle tombe du cheval, pas parce qu'elle n'est pas expérimentée, mais parce que justement, il y a un peu trop de soleil et le décalage. C'est déjà arrivé, ça, ou pas?
C'est jamais arrivé, mais Ingeborg, elle prend soin justement de donner des électrolytes à tout le monde. Okay. Moi, en fait, je remplissais les gourdes, tu vois, avant de partir en safari, je remplissais les gourdes pour les clients. Donc, je prenais 2 litres d'eau par personne, je leur mettais des électrolytes.
Il y a du dopage dans votre truc, c'est ça. On met des petits produits dans leurs gourdes, ils sont patates, les mecs, au taquet. Super, ok. Non, mais ok, je comprends. Et c'est un truc tout bête. Si des gens qui veulent même partir en Afrique ou dans les pays chauds, tu vas à la pharmacie, tu demandes quoi? Des électrolytes? Vraiment, ça s'appelle comme ça? Ou est-ce qu'il y a une...
C'est ça, ouais. Et même en anglais, ça s'appelle electrolyte. Donc,
c'est pretty facile.
Généralement, dans ces pays-là, parce que c'est quelque chose de courant, en fait, d'en prendre.
J'aimerais qu'on retourne un petit peu en safari, justement. Maintenant, tu as fait un petit peu tes preuves, ok, tu as mangé la poussière, tu as pris 3 baffes par Ingeborg, tu as dit, c'est bon, réveille-toi, je suis électrolyte, arrête d'en faire des tonnes, là, hein, sinon je te file à bouffer à mon chien, et dépêche-toi, je n'ai pas que ça à foutre. Tu pars après avec tes premiers clients, et emmène-nous, raconte-nous des belles choses, ou des choses difficiles, ou de... parce que quand tu pars dans ce genre d'aventure, c'est un peu, tu sais, surtout quand tu es... cavalière ou cavalier, moi ça m'a fait cet effet avec la Mongolie, tu rêves de certains endroits, tu rêves de certaines expériences quand tu es à cheval, un espèce de symbiose avec la nature, avec la monture qui a on va dire la gentillesse de te porter. Quand tu es dessus, quand tu vis ça, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe?
Alors déjà, tu pars en safari et ce qui est magique, c'est que en fait, les animaux, tu peux les approcher de très très près quand tu es à cheval parce que comme le cheval, c'est un herbivore, en fait, il n'est pas menaçant pour les autres animaux. Du coup, les autres animaux acceptent que tu sois proche d'eux avec ton cheval. Ils le reconnaissent un peu comme un cousin, tu vois. Et du coup, tu peux t'approcher vraiment très proche des girafes. Des fois, on avait des groupes de girafes qui galopaient autour de nous. On galopait avec les girafes. On était à 10 mètres d'elles.
Oh, la folie, c'est incroyable. Vas-y, continue. Non, mais continue. Excuse-moi, je réagis. Mais je suis avec toi, là. Je galope.
Je
ne t'arrête pas.
tu es en safari avec moi, je le sens. Et tu approches des herbivores de vraiment très près, tu passes au tournant d'un petit groupe d'arbres et là, tu vois un troupeau de gnous vraiment juste à côté de toi qui prend le départ et qui s'en va devant toi. Tu as des espèces qui sont typiques de la Namibie aussi, comme les oryx, par exemple. Ça ressemble un petit peu à un cheval,
t'as mais vu avec des oryx
des grandes cornes dressées sur la tête, des cornes vraiment droites. Et tu sais, c'est de couleur beige, mais avec comme une grande queue de cheval et un liseré noir sur le dos. Ça, c'est majestueux comme animal. C'est incroyable. Il y a des antilopes des sables. Ça existe plus qu'en Namibie aujourd'hui à cause du dérèglement climatique, forcément, et de l'extinction des espèces. Du coup, l'antilope des sables, c'est l'animal emblématique de la Namibie qui est ultra protégé aujourd'hui parce que vraiment, chaque spécimen est compté, en fait. Et c'est des grandes antilopes d'un brun très foncé qui sont vraiment belles. Et il y a quelque chose qu'on a vécu qui était assez touchant. C'est qu'en fait, un jour, dans un safari, on a vu une des antilopes qui était enceinte, qui allait mettre bas. Et quelques jours plus tard, on est repassé et Ingeborg m'a dit « Regarde, tu vois cette antilope-là, c'est celle qui vient d'avoir son petit. » Et je lui dis « Mais attends, comment tu sais que c'est forcément celle-là? Je ne comprends pas comment tu la reconnais. » Et elle me dit « Regarde un peu plus loin sous l'arbre là à droite. » Et en fait, il y avait le petit qui était caché sous l'arbre pas très loin. Et c'est vraiment comme ça que les antilopes des sables se comportent. En fait, elles éloignent le petit du troupeau pour éviter d'attirer les prédateurs vers le petit qui est l'élément facile à attaquer, en fait, et pour éviter de mettre en danger le troupeau. Du coup, elles le cachent à un endroit où elles le recouvrent un peu, tu vois, avec des branches. Elles le font se rouler un peu dans la poussière pour cacher les odeurs. Et le mâle et la femelle font régulièrement des allers-retours vers le petit pour s'assurer de sa sécurité, mais ils ne l'approchent pas du troupeau.
Oh là là, et c'est forcément quand tu quand t'es dans ce genre de moment, et là je viens plus sur le côté intérieur, qu'est-ce que tu ressens, tu sais, c'est con, mais t'es là, mais qu'est-ce qui se passe?
Ce que tu ressens, c'est que déjà moi je trouve que c'est des moments aujourd'hui qui sont très privilégiés de se faire accepter par la faune, ça devient de plus en plus rare. Et c'est des moments vraiment, vraiment uniques et privilégiés d'être accepté comme ça par la nature et par les animaux. Enfin, être comme ça, voyager et se promener vraiment, être accepté par les animaux et vivre au milieu d'eux, c'est des moments qu'on vit même plus, nous, en Occident, tu vois, en France, c'est hyper rare que tu vois une biche, c'est rare de se retrouver au milieu des animaux comme ça, et c'est un peu ce qui nous fait tous rêver finalement quand on est enfant. Donc là, quand tu te retrouves au milieu de ces animaux sauvages, qui sont si proches de toi, que tu côtoies au milieu desquels tu sillonnes, tu te sens vraiment privilégié, tu te sens reconnecté à quelque chose que tu vis plus en fait, et tu prends vraiment le temps d'apprécier les choses que la nature t'offre en fait.
Et justement, c'est quand tu es sur le cheval, tu te reconnectes, tu vis toutes ces émotions qui sont fortes. Qu'est-ce que ce voyage, parce que chaque voyage, il apporte quelque chose de différent, soit une compréhension sur le monde, soit une compréhension sur soi, soit une compréhension sur une culture, un environnement. Qu'est-ce que ce voyage-là, il t'a apporté à toi?
Alors moi, ça m'a appris plusieurs choses. Déjà, ça m'a appris que t'es capable de beaucoup de choses en fait quand tu te conditionnes. Moi je suis assez impressionnée par notre cerveau qui est capable de switcher, tu vois, et de se dire ok, là on va vivre cette situation, et même si ça paraît assez extrême, on est capable de le faire, tu vois. Moi je me suis retrouvée en Namibie là des fois devoir soigner des chevaux blessés parce que Ingeborg me le demandait, et je le faisais parce que j'avais pas le choix, en fait. Tu es au milieu de la Namibie, au milieu du désert. Tu vois, si on avait eu la même situation ici aujourd'hui à Annecy, tu me dis « viens voir, mon cheval, il a une grande plaie ouverte, est-ce que tu peux m'aider ?» Je t'aurais dit oui, mais j'aurais plutôt fait « Allô, monsieur le vétérinaire, j'ai un cheval qui est blessé, là, est-ce que vous pouvez venir checker ?» Alors que là, en Namibie, tu n'as pas de vétérinaire. Le vétérinaire le plus proche, il est à 2 heures de route. Donc, si tu as une plaie ouverte sur un cheval, c'était moi la vétérinaire, en fait. Donc,
tu craches dessus, tu t'arraches une manche et tu fais un garrot, quoi.
C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Donc, tu vois, tu te retrouves un peu dans des situations qui peuvent paraître extrêmes, mais que toi, tu te dis, bah, c'est bon, j'en suis capable. OK, les chevaux, je maîtrise. OK, le secours, j'ai des notions de premier secours. Bah, je vais essayer de regrouper tout ce que je connais, de tout mettre ensemble et d'essayer de me débrouiller par moi-même et de prendre mes responsabilités. Parce qu'en fait, tu es dans un environnement où ouais, tu es responsable de toi-même, tu es responsable des êtres vivants qui t'entourent. Et il faut que tu prennes tes responsabilités parce que personne d'autre le fera à ta place, en fait. Tu es seul au milieu du désert, c'est toi qui gères.
Je trouve ça... En fait, je trouve ça top. C'est vraiment ce qui est fort pour moi dans le voyage, c'est de se dire, ah, en fait, et ça, à chaque fois, souvent, ça te le fait, c'est de dire, ah, je suis capable de beaucoup plus que ce que j'imaginais, tu vois. Est-ce que ça t'a appris d'autres choses sur toi, sur peut-être le pays, sur, je ne sais pas, l'environnement?
Ouais, bien sûr. Alors, ça m'a appris surtout à relativiser, à se dire que rien n'était grave et à vraiment reprendre la notion des choses importantes dans la vie, des choses vraiment essentielles à la vie, en fait. Tu vois, quand je te dis que des fois, on se retrouvait au milieu des hyènes. Moi, il y a eu une nuit où, en fait, j'étais toute seule sur le ranch parce qu'il y avait des séjours où Ingeborg me laissait toute seule pour gérer le ranch pendant qu'elle, elle emmenait des clients dans d'autres villes, faire des courses d'endurance, tu vois. Et il y a eu une nuit où j'étais toute seule avec le chien et il y a une hyène qui est rentrée chez moi pendant la nuit. Et en fait...
Attends, comment ça, rentrer chez toi? Et les lames de rasoir? Je comprends pas, attends. Comment ça rentrer chez toi? C'est-à-dire, dans le ranch, en même temps, c'est pas balisé, c'est pas entièrement... Ouais, précise cette phrase qui est très bizarre.
Je précise, je raconte. Alors, mais c'est un truc qui est aussi important pour le voyage d'ailleurs, c'est que dans le voyage, il y a toujours un moment où... Quand tu es dans un endroit depuis longtemps, tu commences à être en confiance et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à faire des conneries.
Exactement. Et là, c'est un point, mais c'est écouter tout ce que vient de dire Philippine, les gars et les filles, c'est exactement ça. Si tu tombes malade, si tu te fais voler, si tu t'arrives un truc, c'est souvent parce que tu as baissé ta garde et tu as pu respecter les choses, parce que tu t'es dit « Ah, bah en fait, tout se passe bien, donc vas-y, c'est cool, je me détends. » Mais c'est parce que tu avais tout bien fait que ça se passait bien. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as foutu, putain?
Alors, en fait, assez surréaliste, ce que je vais vous dire, c'est que Ingeborg, elle avait 8 chats et moi, dans mon salon, j'avais une trappe à chats, tu sais, qui menait de l'intérieur à l'extérieur pour que les chats puissent passer. Et donc, cette trappe à chats, forcément, la nuit ou quand j'étais pas dans la maison, il fallait la fermer. Enfin, même quand j'y étais, d'ailleurs. Ouais. Et en fait, un séjour où j'étais toute seule sur le ranch, ça faisait assez longtemps que j'étais sur le ranch. Une nuit, je vais me coucher et j'oublie de fermer la trappe à chats. Et ouais. En fait, la trappe à chat, il s'avère qu'elle était quand même assez grande. Tu vois, le chien passait par la trappe à chat. Donc,
parce que, excuse-moi, une trappe à chat, c'est un chat qui passe. Une hyène, c'est un espèce de pitbull surdopé. What? Le chien, il passait. En fait, vous aviez fait une porte, littéralement, en fait.
C'était un bout de bois branlant. Enfin, tu vois, c'était...
OK, ambiance Namibie. Voilà. D'accord.
Exactement, ouais. Exactement.
Got it.
Et une nuit, je vais me coucher. Il faut savoir que moi, la nuit en Namibie, je ne dormais jamais vraiment complètement. Vraiment, en fait, l'ambiance était tellement anxiogène que je n'ai jamais complètement bien dormi profondément en Namibie. Et là, cette nuit-là... Il y a un truc qui me réveille et je commence à entendre du bruit autour du ranch. Donc bon, ça c'était habituel parce que la nuit il y a souvent des animaux qui passent à côté de ma chambre, mais là il y avait vraiment des bruits proches et je sentais qu'il se passait quelque chose et le chien qui était dans le salon commence à aboyer alors qu'il aboyait jamais. Et là je me dis ok, merde, bon, qu'est-ce qui se passe? Doit vraiment y avoir un animal inhabituel à côté de chez nous. Et j'entends aussi les chevaux qui étaient juste à côté de ma chambre, l'écurie était juste à côté de ma chambre, en fait j'entends les chevaux qui s'affolent. Et là, je me dis, waouh, ok,
c'est pas bon.
Là, ouais, il y a vraiment un animal, un petit prédateur, tu vois. Je me suis dit, bon, il doit y avoir un petit prédateur qui rôde. Et en fait...
Un raton laveur. Il y a un petit raton laveur.
Exactement, tu vois, un petit ragondin classique.
Ouais, voilà. Normal, en Namibie, quoi, ouais, normal.
Et en fait, donc, je commence à me lever du lit, tu vois, à essayer de comprendre. Et les erreurs que j'ai faites, c'est qu'en fait, j'avais une radio avec moi que je devais toujours avoir avec moi qui était reliée au gardien de sécurité du ranch parce qu'on avait des gardiens de sécurité qui tournaient autour du ranch tout le temps.
Okay.
pas seulement pour les animaux sauvages, parce que ça, finalement, c'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, en fait, c'est surtout les braconniers.
Et, qui viennent voler les chevaux, qui viennent...
Les braconniers qui viennent sur les zones autour de chez nous, sur lesquelles il y a des animaux sauvages. Et comme je t'ai dit, on avait des rhinocéros pas loin de chez nous. Et le rhinocéros, comme tu le sais, c'est vraiment une cible des braconniers parce qu'ils leur coupent leurs cornes. Ouais. Une corne de rhinocéros, ça vaut 1 million, tu vois, et ils la revendent après. Donc, en fait, les braconniers, eux, moins ils ont de monde pour les emmerder, pour pouvoir faire leurs affaires tranquilles, pour aller tuer les animaux et puis prendre ce qu'ils veulent, mieux ils se portent. Et du coup, c'est déjà arrivé qu'il y ait des braconniers qui attaquent vraiment des ranchs, tu vois, qui viennent, qui tirent de partout et qui terrorisent
pour après aller faire leur business, en fait.
Exactement, exactement. Et donc, Ingeborg, ça lui était déjà arrivé qu'il y ait des braconniers qui rentrent chez elle, qui tirent dans la maison, et les gardes de sécurité, en fait, avaient été obligés de tuer tout le monde. Et bon, voilà, c'est des épisodes... épisodes un peu hardcore. Ça peut arriver, ça ne m'est pas arrivé, mais en tout cas, donc cet épisode-là où je commence à sentir qu'il y a quelque chose dehors, j'avais laissé ma radio dans mon salon. Elle n'était pas avec moi, elle était dans mon salon. Et là, je me dis, merde, j'ai pas ma radio, elle est dans mon salon. Et en fait,
c'est loin.
Voilà, c'est loin. Et quand le chien a commencé à aboyer, un moment, il est sorti d'un coup, il est sorti à l'extérieur, il est passé par la trappe et que j'avais oublié de fermer du coup, et il est allé à l'extérieur. Et donc là, je me suis dit, putain, le chien, il est parti, j'ai pas ma radio, je fais quoi? Et en fait, j'ai commencé à entendre du bruit vraiment à côté de chez moi et après dans mon salon. Et là, quand j'ai entendu le bruit dans mon salon, en fait, mon cerveau, il a switché. Je me suis dit, putain, il y a quelqu'un chez moi. Et j'ai vraiment
cru. Ah là, t'as cru que c'était quelqu'un?
J'ai cru que c'était quelqu'un parce que, tu sais, j'avais entendu ces bruits de pas autour de la maison. J'avais entendu le chien qui commençait à s'affoler, les chevaux. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelqu'un chez moi. J'ai pas ma radio. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'avais un couteau que mon père m'avait donné dans ma valise. Donc, j'ai pris mon couteau. Je me suis cachée derrière ma porte et j'ai attendu. Je me suis dit, s'il y a quelqu'un, il va forcément ouvrir la porte de ma chambre. Et pour moi, en fait, j'allais vraiment me faire kidnapper, tu vois, à ce moment-là.
Tu dis ça comme ça, mais attends, mais là, ta pulsation, elle est à 420, là.
Ah, mais là c'était...
T'as ambiance
c'était...
film Taken, tu te mets sous le lit, tu te mets... Waouh.
Ben là, c'était vraiment ambiance survie, parce qu'en fait, je savais pas ce qui se passait, je savais pas si c'était un animal, si c'était quelqu'un, mais en fait, à partir du moment où j'ai entendu des bruits dans mon salon, je me suis dit, putain, il y a quelqu'un chez moi, et c'est là que je me suis dit, bon, bah, finalement, la meilleure chose, entre guillemets, qui puisse m'arriver, c'est de me faire kidnapper et qui demande une rançon, tu vois. Et du coup, j'ai pris mon téléphone à ce moment-là avec le
pour checker, ton compte en banque, pour voir si t'avais assez pour payer la rançon.
Forcément, voilà, premier réflexe.
Non, mais pour se rassurer un peu, tu sais.
Non, là, comme tu dis, tu l'as dit en rigolant, mais c'est vraiment ça, en fait. Comme dans mon esprit, je pensais qu'il allait se passer ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé qui je pouvais joindre. Et le décalage horaire en France, c'était encore 23 heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, OK, j'ai des chances qu'il y ait quelqu'un qui me réponde en France. Et en fait, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais le premier réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai envoyé un message à mon père et je lui ai dit, papa, je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. Et donc là,
t'es une torture, toi. Mais il peut rien faire, le gars.
Il peut rien faire, mais en même temps, il fallait que je contacte quelqu'un. Et moi, à ce moment-là précis, je pensais qu'il y avait un mec armé dans mon salon. Et donc, si t'as un mec armé dans ton salon, tu fais quoi? Bah, il faut que tu demandes de l'aide de l'extérieur, parce que moi, je pouvais pas parler à mon téléphone.
Mais dans Taken, il faut être au téléphone et tu décris le mec.
Mais tu rigoles, mais j'ai vraiment fait ça. Donc, j'ai envoyé un message à mon père. Forcément, tout de suite, il m'a appelé. Je l'ai raccroché au nez et je lui ai envoyé « Je ne peux pas parler. Je crois qu'il y a quelqu'un à côté. Je ne peux pas parler. » Et je lui ai dit par message « J'ai peur. » Et du coup, je lui ai dit, écoute, attends, je t'appelle, je te mets sur écoute, comme ça, si jamais il se passe quelque chose, je crie, je te décris ce qui se passe et tu sais ce qui se passe. Donc, j'ai vraiment fait ça, j'ai mis mon téléphone sur appel, je l'ai posé à côté de moi et j'ai attendu qu'il se passe quelque chose. Et en fait, au bout d'un moment, les bruits dans le salon, il ne se passait rien, tu vois, personne n'a ouvert ma porte, en fait. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, bon, si personne n'a encore ouvert ma porte, c'est peut-être pas quelqu'un, c'est peut-être un animal. Et du coup, là, j'ai ouvert ma porte d'un coup, j'ai allumé la lumière en même temps, j'ai crié le nom du chien, j'ai crié « Tokos !» pour qu'il revienne vers moi si jamais il y avait un animal avec moi. Et là, j'ai vu le truc filer par la trappe à chat à l'extérieur. Le chien est revenu en même temps à côté de moi et là, j'ai tout caroublé, j'ai pris ma radio, j'ai appelé les gardes. J'étais à 1000% là, j'étais sous adrénaline, j'ai appelé les gardes, je leur ai hurlé dessus en leur disant « Pourquoi vous n'êtes pas là? Pourquoi vous n'êtes pas devant chez moi? Il y a quelque chose !» Et là, j'étais vraiment « Mais waouh !» Ouais, tout explosait en moi en fait, toute la pression tombait.
Bien sûr. Oh la vache, la panne. Les minutes les plus longues de ta life et de celle de son et celle de ton père.
Exactement.
Il est père ou est-ce qu'il l'a vu après ce truc là?
Ouais ouais, il a décroché la pêche.
Vache. Ah ouais. Elle a dit, ma fille, tu repars plus jamais. Tu vas faire un truc équestre là la grande motte. Ok, pas de problème. Par contre, tu te calmes direct sur la sélection des pays. Non, d'accord. Ok. Waouh. La vache, ça c'est eh ben ça c'est de l'anecdote. C'est ça qu'on aime et qui se termine bien, c'est ça qu'on aime aussi. Est-ce que tu as su ce que c'était ? T'as su ce que c'était ou pas ? Comme animal ?
L'animal ? Bah, je pense que c'était une hyène parce que c'est ce qu'on en a déduit après, d'après ce que j'ai vu filer et d'après ce qu'Ingeborg me disait. Elle m'a dit que c'était possible et en fait, il y avait les croquettes du chien à l'intérieur dans mon salon et je pense que c'est ça qui l'a attiré, tu vois, l'odeur des croquettes.
Du quiz casse. Attends, c'est voilà, c'est évident, j'ai plus pédigré pâle, merde. Pédigré pâle, c'est normal, c'est du petit lait pour eux, c'est stylé. Oh, ok, waouh.
J'aime et on disait ça,
Non, vas-y, je t'en prie.
On disait ça parce que tu me demandais ce que ça m'avait appris et du coup, je te disais que ça m'avait appris à relativiser. Tu vois, maintenant, quand il se passe quelque chose d'un peu stressant, on va dire, dans ma vie, je me dis, ok, rappelle-toi de ce que tu as vécu. Est-ce que c'est vraiment grave, là, ce qui se passe? Est-ce que tu es vraiment en danger? Non. Donc, c'est bon, tu vas gérer.
je pense que c'est un très bon moyen de relativiser, effectivement. Il y a un truc que j'aime bien aussi dans ce voyage, c'est que c'est un voyage de 2 mois qui est une vraie aventure, immersive comme on peut l'écouter et l'entendre, mais tu retournes dans ta vie à chaque fois que tu aimes en plus. Je sais que tu bosses pour une marque, alors fais un coucou pour Mammouth, que j'aime beaucoup aussi, que tu apprécies particulièrement, t'aimes cette life, ils te font confiance, c'est cool, et tu n'es pas du tout en mode « j'échappe en fait à ma vie en France » pendant des voyages, et je vais chercher quelque chose en plus, je vais chercher une bouffée d'air frais. Et justement, tu vois, c'est la plupart des gens aussi utilisent le voyage est malheureusement aussi des fois un échappatoire. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens justement quand ils voyagent comme ça? Quel genre de comment dire, pour que ça t'apporte un maximum et pour pas justement être en mode la France c'est horrible, je peux pas voyager et tout. Comment tu choisis tes destis? Quand tu pars, dans quel état d'esprit? Comment tu fais pour en retirer le meilleur, tu sais, de ces aventures tout en profitant après et kiffant ton pays où tu vis?
Ouais, c'est une bonne idée de revenir à ça. En fait, moi, je retire toujours quelque chose des voyages et je vais toujours en voyage pour rencontrer des gens, pour m'inspirer. Je sais que c'est très très important d'être curieux, vraiment, c'est essentiel. Si je dois transmettre quelque chose aux gens, c'est ça, c'est soyez curieux et essayez plein de choses, rencontrez du monde, soyez inspiré par plein d'univers différents, parce que quoi que vous vivrez, vous en retirerez forcément quelque chose, même si c'est très lointain de vous et de votre vie, vous en retirerez toujours quelque chose. Et c'est très important d'aller à la découverte comme ça, de se confronter un peu à soi-même, mais aussi de se confronter à la vie des autres et de vivre des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre, de voir comment ça se passe ailleurs, pour après, comme tu dis, revenir et se dire, en fait, on est vraiment super bien chez nous.
Je pense que ça aussi, c'est comme tu dis, c'est tu vas en stage avec toi-même. Et c'est pas tant le décor qui est toujours important. Oui, c'est cool, etc., mais c'est toutes les choses qui en découlent.
Bon, y a un truc aussi qui est important pour moi, c'est toujours essayer de motiver les gens tu vois, à partir voyager, notamment les femmes, parce que je trouve ça super important aussi, mais évidemment, je suis beaucoup moins légitime que toi à leur donner des conseils. Si moi j'étais une pote à toi qui était juste en dire c'est extraordinaire ce que tu fais, je j'ai pas le courage, j'arrive pas à le faire, qu'est-ce que tu lui dirais justement pour qu'elle surmonte ses obstacles, qu'elle surmonte ses peurs et qu'elle profite pleinement de...
Alors moi, ce que je conseille, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça et qui se sentent pas capables en fait. Et je pense que le meilleur moyen de se sentir capable, c'est de l'expérimenter. vraiment, de vivre une première expérience qui te donne confiance. Et après, tu peux te lancer dans des expériences de plus en plus extrêmes, on va dire, ou pas forcément, hein, tu n'es pas obligé d'aller dans l'extrême, mais si tu as envie de vivre des choses de plus en plus aventureuses, tu peux le faire en allant par étapes, en fait. Moi, j'ai commencé à voyager toute seule en allant en Californie. Donc, tu vois, la Californie complètement aseptisée, tu n'as pas forcément de danger, tu as du monde autour de toi, tout se passe bien. Si tu parles anglais, bah, tu peux être aidé très rapidement. Les gens sont très sympas. Et en fait, je conseille de faire ça, de se faire des premières expériences où tu pars dans un environnement que tu connais plus ou moins, ou alors où dans lequel il est facile de s'adapter. Et comme ça, ça te donne confiance, ça te donne des premières habitudes de voyage, des premiers réflexes. Et en fait, petit à petit, tu peux essayer de te mettre dans des situations un petit peu plus aventureuses. Et il faut que tu arrives à avoir les mêmes réflexes, comme on disait, à ne pas oublier de prendre des précautions, à ne pas être trop en confiance et toujours garder les bons réflexes. Ça, c'est très, très important. Et après, en tant que femme toute seule, on est capable de le faire, en fait. Il y a absolument rien pour nous bloquer. C'est nos blocages en nous-mêmes qui nous empêchent de faire des choses. Et du coup, vraiment, sentez-vous capable. Vous pouvez, voilà, comme je dis, faire des petits tests, faire des premières expériences. Et après, vous pouvez aller où vous voulez, tant que vous le sentez, vous, en fait. Il faut un peu se fier à son instinct aussi. Il faut se fier à son instinct et tout ira bien. Il faut se mettre dans des bonnes conditions. Alors, bien penser à réunir tous les bons éléments autour de soi, tous les éléments de sécurité, entre guillemets. Et une fois qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent en confiance, après, à toi de te dépasser et de te dire « Ok, je peux le faire. » Et là, tu vas vivre des vraies aventures.
Top. Écoute, j'espère que les femmes qui nous écoutent ont encore ces petits blocages et cet illégitime manque de confiance en elles. Je dis bien illégitime, il y a un moment, faut avoir confiance en soi. Il n'y a pas de personne n'est plus fort que d'autres. C'est juste Exactement. De la détermination. C'est, ouais. c'est juste ça. Et tu vois, et ça, tu le vois à l'autre bout du monde, parce que ce soit des guides, femmes, hommes, qui sont hauts comme trois pommes, épais comme des câbles de frein à main, et en fait, qui soulèvent des trucs, qui ont la dextérité, qui ont le côté smart. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le physique, avec les capacités physiques, c'est juste en fait la confiance en soi, du bon sens, être humble pour apprendre et aussi sentir son instinct, comme tu dis. Donc allez-y, foncez les girls et foncez les gars aussi, il n'y a pas de raison. On va arriver sur la fin de ce podcast et j'aime bien terminer avec deux petites questions traditionnelles. La première, c'est si je te file les clés d'Adolorean pour revivre un seul moment de ce trip en Namibie, ce serait lequel ?
Alors, si tu me donnes les clés de la DeLorean pour revivre un moment de ce trip en Namibie, je pense que ce serait un moment où, à la fin de mon séjour, on a fait une course d'endurance, parce que Ingeborg, elle coachait aussi des cavaliers pour des courses d'endurance. Et moi, c'était la première fois que je faisais ça. Et donc, j'ai vécu ma toute première course d'endurance avec une jument qui s'appelait Natifa. Et c'était vraiment immersif, tu vois, parce que comme tu disais au début, moi j'ai fait mon malaise sous la chaleur et là je me préparais à passer deux fois une heure et demie à cheval sous la chaleur, sans eau. J'avais le droit de boire que en arrivant à mon premier relais de course, en fait. Et donc pour moi, c'était vraiment un défi en fin de séjour où j'avais vraiment peur. Je le disais à Ingeborg, j'appréhendais un peu. Je lui disais, écoute, on n'a pas le droit d'avoir d'eau sur nous, mais comment ça va se passer? Je te rappelle qu'au début du séjour, moi j'ai fait un malaise. Là, on se prépare à être 3 heures à cheval au galop, en équilibre sur nos cuisses, sans jamais poser nos fesses sur la selle pour soulager le dos de nos chevaux. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Et du coup, j'ai vécu cette course d'endurance où on partait avec d'autres cavaliers namibiens. Enfin, des cavaliers, soit des expatriés, soit des personnes qui habitaient là depuis longtemps, tu vois, des cavaliers.
Aussi. Des locaux, quoi.
Et tout le monde criait en même temps « Zakeraï !» Et Zakeraï, ça veut dire en afrikaans « Profite de ta chevauchée ». Et on était tous sur cette course d'endurance. Moi, j'ai réussi à faire la course jusqu'au bout. Et c'était yes. une épreuve vraiment, vraiment dure, parce que physiquement, les courses d'endurance, c'est assez dur. À la fin, j'étais trop heureuse d'avoir vécu ça. Ça m'a rempli d'un sentiment, tu vois. Après, on est rentré au ranch et c'était les derniers jours de mon séjour. Et j'avais l'impression d'être en même temps vidé et en même temps rempli d'une nouvelle énergie, tu vois, de m'être retrouvée. Comme je disais, j'ai toujours été une cavalière et je pense que je le serai toujours. Vraiment, ça fait partie de mon identité et de mon âme. Et je me sentais vraiment remplie de ce sentiment-là, de me dire, OK, là, tu t'es vraiment retrouvée, toi, dans ta zone de génie, dans ce que tu sais faire et dans ce dans quoi tu aimes être, en fait. Et je me sentais remplie de plein de nouvelles émotions.
C'est là où le ski à Annecy... ça entraîne les cuisses pour pouvoir faire des courses d'endurance après et de rester sur ses pointes pendant 3 heures. Sentiment incroyable, j'imagine. Dernière question, si tu devais résumer ce trip en une phrase de ta création, une citation, une punchline, ce serait laquelle ?
Je pense que ce serait... je sais que c'est quelque chose que tu dis un petit peu, je ne sais pas si tu le dis exactement sous cette forme-là, mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est qu'il faut vraiment être acteur de sa propre vie, écrire sa propre histoire et vraiment savoir ce qu'on a envie de transmettre. Et ouais, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le maintenant, en fait, parce que ta vie, elle est maintenant. Et si tu as un rêve, tes rêves projettent les pas dans le futur. Tes rêves, il faut que tu les vives maintenant et que tu mettes tout en œuvre pour les vivre maintenant. Vraiment, ta vie, elle doit être aujourd'hui. Donc, fais ce que tu as envie de faire vraiment aujourd'hui, dans le moment présent.
Génial. Je dis souvent que moi, ma vie, c'est un roman d'aventure dont je veux être le héros. Et je pense que c'est exactement ça. Merci beaucoup, Philippine, pour ce témoignage, cette aventure assez atypique qui a dû en faire rêver et peur plus d'un et plus d'une qui écoute ce podcast. Comme d'habitude, évidemment, ça nous fait toujours très, très plaisir, des petits dédicaces, que ce soit en story ou envoyer des messages à Philippine. On mettra aussi tous les liens qui permettront de, si vous avez envie d'aller chez Ingeborg, faire du bénévolat, bref, tous les liens utiles pour contacter, et oui, tu seras peut-être contacté par des cavalières et des cavaliers, Philippine, mais tout ça sera à la description du podcast, toutes les infos utiles. Encore une fois, merci beaucoup. Est-ce que tu as une idée de ta prochaine aventure ou pas ? Tu sais ?
Je sais. Comme je le disais, c'est une aventure à laquelle je pense depuis longtemps. Je vais aller dans l'Ouest américain, j'ai vraiment envie d'aller dans le berceau du western, de faire du convoyage de bétail, de vivre vraiment à l'extérieur. J'ai vraiment besoin de cette vie extérieure, donc je vais aller dans le berceau du western avec les cowboys.
Génial. Écoute, je te remercie beaucoup, Philippine. Internaute, comme d'habitude, n'hésite pas à nous faire des petites dédicaces, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt. Ciao.
À bientôt, merci beaucoup.